Chapitre 2 Vers les terres rouges. Les neuf planeurs volaient vers les terres rouges. Ils ne s'écartaient guère des deux routes que depuis 100 siècles suivent les motrices. Les ancêtres avaient construit de grands refuges en fer vierge avec résonateurs planétaires et de nombreux relais moins importants. Les deux routes étaient bien entretenues. Comme les motrices y passaient rarement et que leurs roues étaient munies de fibres minérales très élastiques. Comme par ailleurs, les hommes des deux oasis savaient encore se servir partiellement des énergies énormes qu'avaient captées leurs ascendants, l'entretien exigeait plus de surveillance que de travail. Les ferromagnétos ne s'y montraient guère et n'y faisaient que des dégâts insignifiants. Un piéton aurait pu y marcher une journée entière sans presque ressentir d'influence nocive. Mais il n'aurait pas été prudent de faire des haltes trop longues, ni surtout de s'y endormir. Bien des malades y avaient perdu, comme Elna, tous leurs globules rouges et y étaient morts d'anémie. Les neuf ne couraient aucun péril. Chacun dirigeait un planeur léger qui, du reste, eût pu emporter 4 hommes. Alors même qu'un accident surviendrait aux 2/3 des appareils, l'expédition ne serait pas compromise. Doués d'une élasticité presque parfaite, les planeurs étaient construits pour résister aux chocs les plus rudes et pour braver l'ouragan. Mano avait pris la tête. Taj et Arava sciaient presque de conserve. L'agitation du jeune homme ne cessait de s'accroître. Et l'histoire des grandes catastrophes, fidèlement transmises de génération en génération, hantait sa mémoire. Depuis 500 siècles, les hommes n'occupaient plus sur la planète que des îlots dérisoires. L'ombre de la déchéance avait de loin précédé les catastrophes. À des époques fort anciennes, au 1er siècle de l'ère idiocrative, on signale déjà la décroissance des eaux. Mains savants prédisent que l'humanité périra par la sécheresse. Mais quel effet ces prédictions pouvaient-elles produire sur des peuples qui voyaient des glaciers couvrir leurs montagnes, des rivières sans nom arroser leurs sites, d'immenses mers battre leurs continents? Pourtant, l'eau décroissait lentement, sûrement, absorbée par la terre et volatilisée dans le firmament. Puis vinrent les fortes catastrophes. On vit d'extraordinaires remaniements du sol. Parfois, les tremblements de terre en un seul jour détruisaient 10 ou 20 villes et des centaines de villages. De nouvelles chaînes de montagnes se formèrent, 2 fois plus hautes que les antiques massifs des Alpes, des Andes ou de l'Himalaya. L'eau tarissait de siècle en siècle. Ces énormes phénomènes s'aggravèrent encore. À la surface du soleil, des métamorphoses se décelaient, qui, d'après des lois mal élucidées, retentirent sur notre pauvre globe. Il y eut un lamentable enchaînement de catastrophes. D'une part, elles haussèrent les hautes montagnes jusqu'à 25 et 30 000 mètres, et d'autre part, elles firent disparaître d'immenses quantités d'eau. On rapporte qu'au début de ces révolutions sidérales, la population humaine avait atteint le chiffre de 23 milliards d'individus. Cette masse disposait d'énergie démesurée. Elle les tirait de proto-atomes, comme nous le faisons encore, quoique parfaitement nous-mêmes. Elle ne s'inquiétait guère de la fuite des eaux, tellement elle avait perfectionné les artifices de la culture et de la nutrition. Même elle se flattait de vivre prochainement de produits organiques élaborés par des chimistes. Plusieurs fois, ce vieux rêve parut réalisé. Chaque fois, d'étranges maladies ou des dégénérescences rapides déclarèrent les groupes soumis aux expériences. Il fallut s'en tenir aux aliments qui nourrissaient l'homme depuis les premiers ancêtres. À la vérité, ces aliments subissaient de subtiles métamorphoses, tant du fait de l'élevage et de l'agriculture que du fait des manipulations savantes. Des rations réduites suffisaient à l'entretien d'un homme, et les organes digestifs avaient occupé en moins de 100 siècles une diminution notable, tandis que l'appareil respiratoire s'accroissait en raison directe de la raréfaction de l'atmosphère. Les dernières bêtes sauvages disparurent. les animaux comestibles, par comparaison à leurs ascendants, étaient de véritables zoophytes, des masses ovoïdes et hideuses, aux membres transformés en mi-oignons, aux mâchoires atrophiées par le gavage. Seules quelques espèces d'oiseaux échappèrent à la dégradation et prirent un merveilleux développement intellectuel. Leur douceur, leur beauté et leur charme croissaient d'âge en âge. Ils rendaient des services imprévus à cause de leur instinct plus délicat que celui de leur maître, et ces services étaient particulièrement appréciés dans les laboratoires. Les hommes de cette puissante époque connurent une existence inquiète. La poésie magnifique et mystérieuse était morte. Plus de vie sauvage, plus même ces immenses étendues presque libres. Les bois, les landes, les marais, les steppes, les jachères de la période radioactive. Le suicide finissait par être la plus redoutable maladie de l'espèce. En 15 millénaires, la population terrestre descendit de 23 à 4 milliards d'âmes. Les mers réparties dans les abîmes n'occupaient plus que le quart de la surface. Les grands fleuves et les grands lacs avaient disparu. Les monts pullulaient, immenses et funèbres. Ainsi la planète sauvage reparaissait, mais nue. L'homme, cependant, luttait éperdument. Il s'était flatté, s'il ne pouvait vivre sans eau, de fabriquer celle dont il aurait besoin pour ses usages domestiques et agricoles. Mais les matériaux utiles devenaient rares, sinon à des profondeurs qui rendaient leur exploitation dérisoire. Il fallut se rabattre sur des procédés de conservation, sur des moyens ingénieux pour ménager l'écoulement et pour tirer le maximum d'effet du fluide nourricier. Les animaux domestiques périrent, incapables de s'habituer aux nouvelles conditions vitales. En vain tenta-t-on de refaire des espèces plus rustiques. Une dégradation 200 fois millénaire avait tari l'énergie évocative, évolutive. Seuls les oiseaux et les plantes résistaient. Celles-ci reprirent quelques formes ancestrales. Ceux-là s'adaptèrent au milieu. Beaucoup, redevenant sauvages, construisirent leurs aires à des hauteurs où l'homme pouvait d'autant moins les poursuivre que la raréfaction de l'air, quoique bien moindre, accompagnait celle de l'eau. Ils vécurent de déprédation et déployèrent une ruse si raffinée qu'on ne put les empêcher de se maintenir. Quant à ceux qui demeuraient parmi nos ancêtres, leur sort fut d'abord épouvantable. On tenta de les avilir à l'état de bêtes comestibles. Mais leur conscience était devenue trop lucide. Ils luttèrent affreusement pour échapper à leur sort. Il y eut des scènes aussi hideuses que ces épisodes des temps primitifs où l'homme mangeait l'homme, où des peuples entiers étaient réduits en servitude. L'horreur pénétra les âmes peu à peu. On cessa de brutaliser les compagnons de planète et de s'en repaître. D'ailleurs, les phénomènes sismiques continuaient à remanier les terres et à détruire les villes. Après 30 000 ans de lutte, nos ancêtres comprirent que le minéral, vaincu pendant des millions d'années par la plante et la bête, prenait une revanche définitive. Il y eut une période de désespoir qui ramena la population à 300 millions d'hommes, tandis que les mers se réduisaient au dixième de la surface terrestre. 3 000 ou 4 000 ans de répit furent renaître quelque optimisme. L'humanité entreprit de prodigieux travaux de préservation. La lutte contre les oiseaux cessa. On se borna à les mettre dans des conditions qui ne permettaient pas qu'ils se multipliassent, et on tira d'eux de précieux services. Puis les catastrophes reprirent. Les terres habitables se rétrécirent encore. Il y a environ 30 000 ans, eurent lieu les remaniements suprêmes. L'humanité se trouva réduite à quelques territoires disséminés sur la terre, redevenus vastes et formidables comme aux premiers âges. En dehors des oasis, il devait être impossible de se procurer l'eau nécessaire à la vie. Depuis, une accalmie relative s'est produite. quoique l'eau que nous fournissent les puits creusés dans l'abîme est encore décrue, que la population se soit réduite d'un tiers, que deux oasis aient dû être abandonnées, l'humanité se maintient. Sans doute se maintiendra-t-elle pendant 50 ou 100 000 ans, encore. Son industrie a immensément décru. Les énergies qu'utilisait notre espèce en sa force, l'homme des oasis ne peut plus employer qu'une faible partie. Les appareils de communication et les appareils de travail sont devenus moins complexes. Depuis bien des millénaires, il a fallu renoncer aux spiraloïdes qui transportaient les ancêtres à travers l'étendue avec une vitesse 10 fois plus grande que celle de nos planeurs. L'homme vit dans un état de résignation douce, triste et très passive. L'esprit de création s'est éteint. Il ne se réveille par atavisme que dans quelques individus. De sélection en sélection, la race a acquis un esprit d'obéissance automatique et par là parfaite, aux lois désormais immuables. La passion est rare, le crime nul. Une sorte de religion est née, sans suite, sans culte, sans rite. La crainte et le respect de minéral. Les derniers hommes attribuent à la planète une volonté lente et irrésistible. D'abord favorable au règne qui naissent d'elle, la terre leur laisse prendre une grande puissance. L'heure mystérieuse où elle les condamne est aussi celle où elle favorise les règnes nouveaux. Actuellement, ces énergies obscures favorisent le règne ferromagnétique. On ne peut pas dire que les ferromagnétos aient participé à notre destruction. Tout au plus ont-ils aidé à l'anéantissement, fatal après tout, des oiseaux sauvages. Encore que leur apparition remonte à une époque lointaine, les nouveaux êtres ont peu évalué. Leurs mouvements sont d'une surprenante lenteur. Les plus agiles ne peuvent parcourir un décamètre par heure. Et les enceintes de la Vierge des Oasis, plaqués de bismuth, sont pour eux un obstacle infranchissable. Il leur faudrait, pour nous nuire immédiatement, faire un saut évolutif sans rapport avec leur développement antérieur. On commença à percevoir l'existence du règne électromagnétique au déclin de l'âge radioactif. C'était de bizarres taches violettes sur les fers humains, c'est-à-dire sur les fers, les composés des fers, qui ont été modifiés par l'usage industriel. Le phénomène n'apparut que sur des produits qu'avaient maintes fois resservis. Jamais on ne découvrit des taches ferromagnétiques sur des fers sauvages. Le nouveau règne n'a donc pu naître que grâce au milieu humain. Ce fait capital a beaucoup préoccupé nos aïeux. Peut-être fûmes-nous dans une situation analogue vis-à-vis d'une vie antérieure, qui, à son déclin, permit l'éclosion de la vie protoplasmique. Quoi qu'il en soit, l'humanité a constaté de bonne heure l'existence des ferromagnétos. Lorsque les savants eurent décrit leurs manifestations rudimentaires, on ne douta pas que ce fussent des êtres organisés. Leur composition est singulière. Elle n'admet qu'une seule substance, le fer. Si d'autres corps en quantité très petite s'y trouvent parfois mêlés, c'est en tant qu'impureté, nuisible au développement ferromagnétique. L'organisme s'en débarrasse, à moins qu'il ne soit très affaibli ou atteint de quelque maladie mystérieuse. La structure du fer à l'état vivant est fort variée. Fer fibreux, fer granulé, fer mou, fer dur, etc. L'ensemble est plastique, ne comporte aucun liquide. Mais ce qui caractérise surtout les nouveaux organismes, c'est une extrême complication et une instabilité continuelle de l'état magnétique. Cette instabilité et cette complication sont telles que les chercheurs les plus opiniâtres ont dû renoncer à y appliquer non pas même des lois, mais seulement des règles approximatives. C'est vraisemblablement là qu'il faut voir la manifestation dominante de la vie ferromagnétique. Lorsqu'une conscience supérieure se décèlera dans le nouveau règne. Je pense qu'elle reflétera surtout cet étrange phénomène, ou plutôt qu'elle en sera l'épanouissement. En attendant, si la conscience des ferromagnétos existe, elle est encore élémentaire. Ils sont à la période où le soin de la multiplication domine tout. Néanmoins, ils ont déjà subi quelques transformations importantes. Les écrivains de l'âge radioactif nous font voir chaque individu composé de trois groupes, avec tendance marquée dans chaque groupe à la forme hélicoïde. Ils ne peuvent à cette époque parcourir plus de 5 ou 6 cm par 24 heures. Et lorsqu'on déforme leurs agglomérations, ils mettent plusieurs semaines à les reformer. Actuellement, comme on l'a dit, ils arrivent à franchir 2 mètres par heure. De plus, ils comportent des agglomérations de 3, 5, 7 et même 9 groupes, la forme des groupes révélant une grande variété. Un groupe, composé d'un nombre considérable de corpuscules ferromagnétiques, ne peut subsister en solitaire. Il faut qu'il soit complété par 2, par 4, 6 ou 8 autres groupes. Une série de groupes comporte évidemment des séries énergétiques, sans qu'on puisse dire de quelle façon. Et à partir de l'agglomération par 7, le ferromagnétal dépérit si l'on supprime un des groupes. En revanche, une série tertiaire peut se reformer à l'aide d'un seul groupe, et une série quinquennaire à l'aide de 3 groupes. La reconstitution d'une série mutilée ressemble beaucoup à la genèse des ferromagnétos. Cette genèse garde pour l'homme un caractère profondément énigmatique. Elle s'opère à distance. Lorsqu'un ferromagnétal prend naissance, on constate invariablement la présence de plusieurs autres ferromagnétos. Selon les espèces, la formation d'un individu prend de 6 heures à 10 jours. Elle semble exclusivement due à des phénomènes d'induction. La reconstitution d'un ferromagnétal lésé s'opère à l'aide des procédés analogues. Actuellement, la présence des ferromagnétos est à peu près inoffensive. Il en serait sans doute différemment si l'humanité s'étendait. En même temps qu'ils songeaient à combattre les ferromagnétos, nos ancêtres cherchèrent quelques méthodes pour faire tourner leur activité à l'avantage de notre espèce. Rien ne semblait s'opposer, par exemple, à ce que la substance des ferromagnétos servît aux usages industriels. S'il en était ainsi, il suffirait de protéger les machines, ce qui paraît jadis avoir été refusé sans trop de frais, d'une manière analogue à celle dont nous préservons nos oasis. Cette solution, en apparence élégante, a été tentée. Les annales anciennes rapportent qu'elle échoua. Le fer, transformé par la vie nouvelle, se montre réfractaire à tout usage humain. Sa structure et son magnétisme si variés en font une substance qui ne se prête à aucune combinaison, ni à aucun travail orienté. Sans doute, ces deux structures semblent s'uniformiser et le magnétisme disparaître aux approches de la température de fusion, et a fortiori lors de la fusion même. Mais lorsqu'on laisse le métal se refroidir, les propriétés nuisibles reparaissent. En outre, l'homme ne peut séjourner longtemps dans les contrées électroferromagnétiques de quelque importance. En peu d'heures, il s'anémie. Après un jour et une nuit, il se trouve dans un état d'extrême faiblesse. Il ne tarde pas à s'évanouir et s'il n'est pas secouru, il succombe. On n'ignore pas la raison immédiate de ces faits. Le voisinage des ferromagnétos tend à nous enlever nos globules rouges. Et ces globules, presque réduits à l'état d'hémoglobine pure, s'accumulent à la surface de l'épiderme et sont ensuite attirés vers les ferromagnétos qui les décomposent et semblent se les assimiler. Diverses causes peuvent contrebalancer ou retarder le phénomène. Il suffit de marcher pour n'avoir rien à craindre. À plus forte raison, suffit-il de circuler en motrice. Si l'on se vêt d'un tissu en fibre de bismuth, on peut braver l'influence ennemie pendant 2 jours au moins. Elle s'affaiblit si on se couche la tête au foie, au nord. et elle s'atténue spontanément lorsque le soleil est près du méridien. Bien entendu, lorsque le nombre des ferromagnétaux décroît, le phénomène est de moins en moins intense. Un moment vient où il s'annule, car l'organisme humain ne se laisse pas faire sans résistance. Enfin, l'action ferromagnétique diminue d'abord selon la courbe de distance et devient insensible à plus de 10 mètres. On conçoit que la disparition des ferromagnétaux parut nécessaire à nos ancêtres. Ils entreprirent la lutte avec méthode. À l'époque où débutèrent les grandes catastrophes, cette lutte exigea de lourds sacrifices. Une sélection s'était opérée parmi les ferromagnétaux. Il fallait user d'énergies immenses pour refréner leur pullulation. Les remaniements planétaires qui suivirent donnèrent l'avantage au nouveau règne. Par compensation, sa présence devenait moins inquiétante, car la quantité de métal nécessaire à l'industrie décroissait périodiquement, et les désordres sismiques faisaient affleurer en grande masse des minerais de fer naïfs, intangibles aux envahisseurs. Aussi, la lutte contre ceci se ralentit-elle au point de devenir négligeable. Qu'importait le péril organique au prix de l'immense péril sidéral ? Présentement, les ferromagnétos ne nous inquiètent guère. Avec nos enceintes d'hématite rouge, de limonite ou de fer spathique, revêtues de bismuth, nous nous croyons inexpugnables. Mais si quelques révolutions improbables ramenaient l'eau près de la surface, le nouveau règne opposera des obstacles incalculables au développement humain, du moins à un développement de quelque envergure. Targ jeta un long regard sur la plaine, et partout il apercevait la teinte violette et les formes sinusoïdales particulières aux agglomérats ferromagnétiques. « Oui, murmura-t-il, si l'humanité reprenait quelque envergure, il faudrait recommencer le travail des ancêtres. Il faudrait détruire l'ennemi ou l'utiliser. Je crains que sa destruction ne soit impossible. Un nouveau règne doit porter en soi des éléments de succès qui défient les prévisions et les énergies d'un règne vieilli. Au rebours, pourquoi ne trouverait-on pas une méthode qui permettrait aux deux règnes de coexister, de s'entraider même ? Oui, pourquoi pas ? Puisque le monde ferromagnétique tire son origine de notre industrie, n'y a-t-il pas là l'indice d'une compatibilité profonde ? Puis, portant ses yeux vers la grande plaque de l'Occident, « Hélas, mes rêves sont ridicules. Et pourtant, ne m'aide-t-il pas à vivre ? Ne me donne-t-il pas un peu de ce jeune bonheur qui a fui pour toujours l'âme des hommes ?» Il se dressa avec un petit choc au cœur. Là-bas, dans l'échancrure du mont des ombres, trois grands planeurs blancs venaient d'apparaître.